me permets une petite incursion dans cet épisode pour vous parler de mon prochain Weekend Mastermind les 15 et 16 juin prochains. Mon Weekend Mastermind, c'est quoi? C'est un événement unique en petit comité où je travaille avec une vingtaine de personal trainers, de propriétaires de studios, de box sur la croissance de leur business et l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site andypoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description. Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter un couple formidable, Mej et Mo, qui sont passionnés de fitness et de freestyle en step et en aérobic. Rapidement, ils deviennent présenteurs en freestyle. Avec la Covid, ils sont obligés de pivoter et de changer de business model. C'est de là qu'est né Human Fit, leur programme de coaching en ligne. On a parlé de plein de choses passionnantes. Le freestyle est-il has-been ou a-t-il encore de beaux jours devant lui? Comment préserver son corps quand on est instructeur fitness? Comment démarrer dans le coaching online en plein Covid? Comment créer une véritable communauté autour de son business? Le concept de la valeur et la puissance de la double offre. Comment structurer un business quand on est en couple? Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Mej et Mo.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Meg et Mo de Human Fit. Salut.
Salut.
Salut, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Salut Andy, salut tout le monde.
Alors, juste mon prénom, ça se prononce Mej.
Mej. Ah ben voilà, ouais, voilà.
Tu l'as vu, voilà. T'inquiète.
Bon ben, excuse-moi Mej, du coup. je voulais vous faire intervenir parce qu'on a eu l'occasion d'être dans le même mastermind et votre expérience et votre parcours est super enrichissant et intéressant. Et le fait que vous soyez aussi deux en couple, même chose au niveau de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a des pépites à récupérer. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument que vous interveniez dans le podcast. Est-ce que déjà, vous pouvez très simplement vous présenter tous les deux?
Mohamed et Mej, donc on est tous les deux coach sportifs depuis 2013, tous les deux. Donc on est également présenteur de fitness dans le freestyle, donc step aérobic. Pour ceux qui connaissent pas, donc on intervient sur des événements sportifs en France, à l'étranger, pour la discipline step aéro. Et depuis 2020, on est coach en ligne, donc expert en perte de poids pour les femmes, les hommes, donc qui veulent perdre de poids et reprendre confiance en elles. Et cette partie, donc on l'a fait en ligne depuis 2020, comme je viens de dire.
Yes, tout pareil.
depuis combien de temps vous êtes ensemble? Depuis combien de temps vous connaissez?
Donc début 2016.
Ouais, on est ensemble depuis 2016, mais on se connaît depuis 2014.
Ouais.
Ok. Et du coup, j'aime bien poser cette question, c'est revenir un petit peu aux fondamentaux. Pourquoi en fait vous êtes rentré dans le domaine du fitness? Qu'est-ce qui vous a intéressé et par quel phénomène vous êtes arrivé dans cet univers-là?
Là, pour le coup, on a deux parcours différents. Ouais. Tu commences ou je commence?
Allez, je commence. Pour moi, ça a été un petit peu comme un médicament et une révélation. C'est-à-dire, suite à un problème personnel, pardon, j'ai été tirée dans un cours de fitness avec des gros a priori, ouais, mais c'est pas fait pour moi, etc., etc. Et je suis tombée complètement amoureuse de ce milieu, de cette discipline. Je me suis dit, mais c'est génial, on peut partager, on peut échanger avec tout le monde, il y a une super ambiance, etc. Et à partir de là, ça a été une révélation. Donc, je partais avec des gros a priori et ça a tout cassé.
Ok. Et c'était quoi les a priori que tu avais du coup?
C'était un petit peu, moi, je préfère faire du sport en extérieur, dans le milieu naturel. J'ai besoin d'aller courir. Je faisais beaucoup d'équitation, d'athlétisme. Donc, pour moi, le sport, ça se passait dehors. Ça se passait, voilà, pour prendre du plaisir, il fallait qu'on soit proche des animaux ou en extérieur.
Et puis, le fitness, c'est pas du sport.
Et puis non, alors peut-être pas jusque là, mais voilà, c'était pas dans mon univers, on va dire.
Ok. Et t'as pas été déçu du coup de l'envers du décor, parce que souvent de l'extérieur, les gens te disent waouh, t'as un métier super cool, tu fais faire du sport. Et puis quand les gens rentrent dans ce domaine-là, ils se disent ah ouais, mais non, en fait, c'est un vrai travail, tu vois. Et comment toi tu as pris, enfin comment t'es rentré dedans, et du coup qu'est-ce qui t'a le plus intéressé?
En fait, je pense que au vu que j'arrivais avec ces idées un petit peu à reculons, j'avais pas une image vraiment de rêve, etc. Donc je me suis juste laissée surprendre progressivement par la discipline, et ça a été plutôt l'inverse. En fait, je me dis ouais, maintenant ce métier, c'est juste compter jusqu'à 8, et au final non, je me rendais compte que non, progressivement c'est apprendre aux gens à se servir de leur corps, c'est partager aussi une énergie, partager un bien-être, etc. Donc moi, ça a été vraiment le chemin inverse. J'avais pas cette vision du dream fitness, mais plutôt l'inverse. Et du coup, je me suis laissée surprendre. Les mêmes choses pour le milieu des conventions, d'être présenteur, etc. Ça a été un peu de surprise en surprise. Ah mais ça existe. Ah mais ça, c'est possible. Et du coup, non, pas déçu de l'envers du décor. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'on puisse chacun exprimer ce qu'on avait à dire dans le fitness, en fait.
Ouais, son plein potentiel. Ok. Et toi, Mo, du coup, t'es arrivé comment?
Alors moi, j'ai toujours baigné un petit peu dans le sport. Donc j'ai commencé le handball à l'âge de 6 ans. Et déjà à cet âge-là, j'admirais mes profs de sport. Je voulais un jour être prof de sport, mais de handball du coup à cette époque. Après, j'ai fait de la danse et je voulais être prof de danse un jour. Et moi, je suis arrivé en 2013 aussi du coup en France, et j'ai passé du coup mon diplôme équivalent ici dans le PPGEPS.
Ouais.
Voilà. Donc là, j'ai commencé dans le sport, donc prof de sport également prof de danse. Et la première fois que je vois des présentateurs, on va dire, sur scène, j'ai regardé, j'ai fait waouh, mais c'est ça que je veux, en fait. Donc j'ai travaillé un an, deux, trois, j'ai fait des compétitions donc en 2018. Donc c'est une compétition internationale de freestyle à Paris. Je suis arrivé deuxième du coup. Et après voilà, donc ma carrière de présentateur entre guillemets qui a commencé en 2018, qui s'est arrêtée un peu en 2020 avec le Covid. Mais voilà, comment je suis rentré dans le fitness. Ma mère aussi, elle était ancienne prof de fitness, donc
okay.
Je regardais aussi donner des cours un peu, tu sais, à l'ancienne, hein, un peu à la Véronique Davina, tu sais, avec les cyclismes, talons fesses, jumbo jack, etc. Donc j'ai toujours un peu baigné dedans, et pour moi c'était comme une évidence que j'allais continuer dans le sport. De toute façon, à l'école, c'est là où j'étais excellent, pas ailleurs.
Ok, et c'est marrant parce que quand on s'était rencontré du coup, c'était à Marseille, que vous m'aviez expliqué que vous étiez présenteur, ça me rappelait mes jeunes époques où je vous disais que moi aussi à l'époque, c'était en 2000, donc après mon BE, c'était vraiment la grosse poussée avec Leaderfit qui arrivait, avec Didier Péché et tout, et moi aussi j'adorais ce côté convention freestyle et tout. J'avais commencé justement à me lancer là-dedans, et vous êtes du coup arrivé un petit peu sur le tard. Quel est aujourd'hui au niveau du marché du freestyle, comment ça se passe? Parce que je vois qu'il y a encore des compétitions en France, il y a encore des compétitions à l'étranger, ça fonctionne plutôt bien. C'est quoi votre vision du coup du fitness freestyle en Europe et dans le monde?
Alors, parler de la vision depuis 2020, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Mais c'est vrai que le freestyle a fait un petit peu les montagnes russes, on va dire. Ça monte, ça devient très à la mode, tout le monde est à fond. Après, la Zumba est arrivée, donc c'est calmé un petit peu le freestyle. Après, c'est revenu. Après, les Smiths, ils ont pris un peu plus de place. Après, c'est revenu. Mais le step aéro, ça reste de la base. C'est-à-dire aujourd'hui, pour obtenir un diplôme de coach sportif en cours collectif, t'es obligé de faire du step aérobique. On te demande pas de faire du combat ou du pilate ou de la zumba. Donc, ça reste quand même la base. Pour moi, ça restera toujours. Ça, c'est ma vision personnelle. Ça ne va pas disparaître comme certaines disciplines qui arrivent et qui partent. On n'entend même plus parler. Les événements, c'est si calmé, bah, du coup, parce que les organisateurs n'ont pas de visibilité. Donc, ils sont un peu friands sur l'organisation. Ça organise plutôt des petits stages. Voilà, ça revient timide. Dès que ça revient, il y a encore un nouveau variant. Donc, ils se retirent. Voilà, c'est un peu compliqué depuis 2020. Nous, avant le confinement, on avait des événements tous les week-ends. Hein, c'était agenda blindé, on va dire. Depuis, voilà, deux événements par mois, des fois un mois sans événement, trois. Donc, c'est pas comme avant, on le voit. Donc, vision long terme, ça dépend.
Je pense qu'il y a un petit peu un tournant aussi là, au vu des événements qui se passent. Après, comme dit Mo, c'est une base, c'est comme la musculation. Enfin, ça fait partie de la base des cours collectifs. La seule chose qui change un petit peu aujourd'hui, c'est comment la jeunesse va visualiser exactement l'apprentissage. Parce que c'est une discipline qui demande de se casser la figure, d'apprendre, d'avoir des moments d'échec, de doute. C'est très difficile. C'est pas juste apprendre un script, les Smiths et le retranscrire. Là, c'est vraiment, ça fait partie aussi de
créatif.
Voilà, ça demande de la créativité.
Et surtout, j'ai l'impression aussi dans nos formations, du coup, dans le BPJEPS ou autre, on aborde beaucoup moins du coup le STEP, le LIA, le ILO, enfin tout ce qu'on faisait. Moi, je me souviens, au brevet d'état des métiers de la forme, on avait un cursus vachement poussé, on avait beaucoup d'heures de pratique et tout. Ouais. Donc, la question que je me pose, et peut-être qu'il y a des amoureux du freestyle qui vont écouter ce podcast, ça a été quoi pour vous? Comment vous avez fait pour percer en fait dans ce milieu-là? Et est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour le freestyle français et puis pour faire un petit peu comme vous faites aujourd'hui? Alors forcément, si on met entre parenthèses ces deux années, mais voilà, si ça revient un petit peu, on va dire en ordre, vous pourrez reprendre vos activités. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil justement aux jeunes qui vont reprendre le flambeau?
Je pense que c'est comme dans tous les domaines, c'est-à-dire pour percer, enfin nous comme on a fait, c'est qu'on a bossé comme des acharnés en fait. C'est qu'on était passionnés par la discipline et qu'on a bossé pour se perfectionner, que ce soit dans les mouvements, dans la création de chorégraphie, dans la recherche de créativité, de rechercher les nouvelles tendances, comment exprimer aussi on a un côté un peu artistique parce qu'on aime tout ce qui est danse, musique, etc. Comment le retranscrire pour amener une fraîcheur, amener une nouveauté. Donc,
est-ce que toi aussi, Mej, tu avais le côté un peu danse et tout? Enfin, tu avais ce bagage-là?
J'ai jamais pris de cours, mais j'ai toujours été ultra attirée par tout ce qui est musique.
Elle n'ose pas le dire.
Arrête, je regardais tous les films de danse, je dansais dans ma chambre, je faisais les chorégraphies. Donc, j'ai jamais pris de cours parce que j'avais un emploi du temps qui était très chargé. Mais j'ai toujours aimé ce domaine-là. Donc, c'est vrai que ça a été aussi l'opportunité d'exprimer ce côté-là à travers cette discipline.
Quand je me suis intéressé, du coup, moi, à l'époque, au tout début, du coup, au freestyle, moi, une des choses que je faisais, j'étais parti tous les week-ends en convention. J'allais, comme vous dites, aller voir un petit peu l'influence. Moi, j'adorais à l'époque les Espagnols, les Suédois aussi. Il y avait des Brésiliens aussi qui étaient super bons. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des écoles, du coup, parce que, comme je disais, avec les diplômes qui nous enseignent, je pense, pas assez pour devenir un bon présentateur. Est-ce qu'il y a des écoles ou des formations qui existent?
Alors, il y a des formations qui existent, mais pas vraiment des écoles pour ça. Je pense à part déjà qu'il faut que pour percer dans le freestyle, il faut être passionné. C'est un peu comme tout. Quand tu es passionné, tu comptes pas tes heures de travail, tu comptes pas les trajets, tu fais des conventions pour apprendre. Voilà, tu regardes pas tout ça. Après, faut travailler, être curieux aussi, regarder pourquoi ça marche pour l'autre, pourquoi ça marche pas pour un autre, etc. Et après, il faut être créatif et dire comment moi je peux apporter quelque chose dans le domaine. Pour avoir une place en fait dans le freestyle aujourd'hui, faut se dire qu'est-ce que je peux apporter sur une scène avec des présentateurs qui sont déjà en place, qui travaillent depuis des années. Qu'est-ce que je peux rajouter ma touche? si tu viens juste pour faire des step touch comme tout le monde et un pas de bourrée, bah, ça marche pas parce que des profs, il y en a. Mais quand tu as quelque chose à apporter de plus, oui, là, il y a la place pour tout le monde, entre guillemets, et donner quelque chose dans le freestyle. Après, okay. Il faut se former beaucoup, beaucoup, beaucoup tout seul.
Ouais. Et je suppose, après, vous avez aussi testé vos chorés et tout dans des clubs. Et comme vous dites, le meilleur moyen de savoir si ça répond de l'autre côté, c'est d'avoir, entre guillemets, des adhérents qui suivent nos cours, quoi.
Exactement.
Mais tester à l'étranger, parce que donner un cours en France, c'est pas la même chose que donner un cours en Italie, c'est pas la même chose que donner un cours en Russie, en Tunisie.
Comment vous avez fait, du coup, ça a été, on m'appelle, je vais en Russie, puis on verra bien ce que ça donne, ou comment vous faisiez justement pour vous préparer d'un pays à un autre? Vous êtes bilingue, vous êtes trilingue, vous parlez toutes les langues du monde, comment vous faites?
On parle la langue du corps, la gestuelle.
Moi, français, anglais, arabe, donc au Maghreb, ça va, en France, ça va.
Ah, tu peux te démerder dans beaucoup de pays, du coup.
Ça va, ouais.
Ça va, okay.
Ouais, après, c'est le langage du corps qui revient énormément. Et comme je t'ai dit, moi, ça a été vraiment le fait de suivre toutes les conventions, tous les cours, tous les profs, voir... avec des yeux comme un hibou à regarder, mais comment ils font là. Et du coup, s'inspirer de ça et de l'expérience des autres. Et puis après, une fois que t'es là-bas et que tu montes sur scène, c'est la transmission avec les gens. De toute façon, tu vois ce qui transmet moins, et après, t'adaptes en fonction de ça.
Mmh. Ok. Et du coup, votre parcours pro, une fois votre diplôme, vous avez été dans des clubs de fitness classiques. Enfin, comment vous avez fait? C'est quoi votre parcours à tous les deux? Et quand est-ce que vous êtes du coup rencontrés et puis vous avez travaillé ensemble?
À ton avis, on s'est rencontrés où?
À une convention, non?
Exactement.
Ouais, c'était facile.
C'était trop facile. Oui, on a travaillé dans des clubs classiques, donc à Lyon, pour ceux qui connaissent. Donc, moi, j'ai commencé des sculptes anciens, enfin l'appart maintenant, l'appart fitness. Qui
Et ça s'appelait comment avant, à Lyon? C'était quel club?
Body Sculpt.
Ok.
Et donc après, j'ai travaillé à l'appart. J'ai jamais en 35 heures, j'ai toujours eu un temps partiel. Et ensuite, j'ai travaillé dans les assos en auto-entrepreneur.
Ok.
Donc, j'ai cumulé toujours deux, entre les clubs en contrat et en auto dans des assos. Et ça depuis 2013 jusqu'à 2020. Et après, ça a changé pour moi.
Ouais, moi, j'étais attirée un peu plus par le milieu associatif. Donc, j'ai commencé en salle de sport, mais rapidement, j'ai eu des contrats en association. Et du coup, après, je travaillais essentiellement au niveau associatif.
Et pour notre rencontre, c'était en 2016 dans une convention ou dans un club où moi, je travaille. Donc on était tous les deux autant que d'adhérents, on va dire, on était en train de suivre la convention et pas sur scène, hein. Et du coup on était côte à côte, je la regarde, je dis mais c'est qui qu'elle a, elle bouge bien,
j'avais vu celui-là.
on s'est juste vu, on n'a pas vraiment parlé, et après voilà, il y a Facebook, et on a un ami en commun du coup qui a proposé un jour de faire une convention tous les trois en tant que prof du coup dans une salle. Donc on a fait aussi une convention ensemble tous les trois, donc là on a commencé à parler, à se présenter, etc.
Parce que t'étais où toi, Mej, du coup? T'étais dans quelle ville?
À Lyon aussi.
Ah, t'étais à Lyon aussi, ok.
Ouais.
Ok. Tous les deux d'ici, ouais.
Ok. Et y a quelque chose qui revient souvent quand on est prof de cours collectifs, de manière générale, freestyle ou Les Mills. Il y a notre corps, c'est on va dire notre outil de travail. Alors, ce qui m'a aussi, ce que je trouve cool avec vous, c'est que vous êtes aussi des sportifs. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup aussi de personnes qui se lancent dans le métier, qui sont pas forcément hyper sportifs et qui aiment le sport. Et je pense que l'une des choses qui nous préserve dans le temps, c'est notre condition physique. Plus on a une bonne condition physique, et je pense que je me trompe pas, hein, si vous faites régulièrement du sport. Comment vous faites comme vous avez fait au début, et puis enchaîner des cours Step, ILO, LIA et tout. Est-ce que vous avez des petits conseils, des tips à donner justement à des instructeurs un petit peu moins expérimentés pour réussir à tenir dans le temps, parce que c'est ça aussi l'enjeu quand on est sur les planches, quoi.
Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, en 2013 et jusqu'à 2018 même, on donnait pas que du step aero, on donnait un peu de tout. Enfin, moi, je donnais du body combat, du pump, de la zumba, de step, aéro, des cours qui sont très cardio, avec enchaîné de renfort.
Des fois, 4, 5 heures.
J'enchaînais des soirées avec 4 cours, genre j'enchaîne step, aéro, zumba, pilates, etc. Donc, c'était pas facile, je m'en voyais pas faire ça non plus à long terme, c'est pas quelque chose que je conseille. Mais pour tenir ça, il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on mange bien, qu'on dort bien, qu'on fait le sport aussi pour nous, qu'on sait s'économiser pendant le cours aussi, qu'on soit pas à 100% dans les cours, qu'on sait coacher.
Moi, ça, etc. J'ai jamais réussi. Hein.
Voilà, ça, là. C'est pas évident pour tout le monde. Mais oui, si derrière, on donne 4 cours par jour comme ça, et ensuite, bah, on mange de la merde et on dort pas assez parce que le soir, on se couche tard, etc. Oui, on tient un an, peut-être quelques mois, un an et demi, 2 ans, mais ton corps, il va dire stop, merde, à un moment donné, et tu vas te retrouver bah, blessé ou faire même un burn-out. Hein. J'en ai vu des collègues comme ça. Hein.
Mm-hmm. Oui, j'en connais aussi beaucoup qui ont soit eu des graves blessures et auquel cas il a fallu qu'ils changent effectivement de métier ou au moins de poste. Et puis effectivement, alors c'est vrai qu'on est dans le côté un peu sport festif et tout. Le problème, c'est que ouais, faire la fête et ensuite être opérationnel physiquement. Surtout en plus, vous qui êtes présenteur, je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut être crédible sur le podium. C'est quoi votre routine aujourd'hui en termes d'entraînement pour donner une idée à ceux qui nous écoutent?
Quand on donnait des cours ou là aujourd'hui?
Quand vous donniez éventuellement des cours et puis je pense que vous avez gardé la même hygiène, je pense.
Ouais, on s'entraîne, en moyenne 4 fois par semaine en musculation. Donc, sans impact, hein, avec de la charge. Et moi, j'essaie d'intégrer en plus un petit peu de mobilité et d'étirement souplesse. Une fois ou deux par semaine, mais des petites sessions de 10-15 minutes ou
okay.
Pas des gros entraînements.
Bah, au niveau sport, oui, c'est ça. Donc, moi, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, donc musculation. Et surtout, où on va chercher vraiment l'énergie, c'est dans l'alimentation. Donc, on a un bon petit déj le matin qui est protéiné, qui est sain. On mange bien le midi, on prend une bonne collation, on mange bien le soir, pas trop tard. Des légumes dans tous les repas, des protéines, un peu de glucides. Voilà, on mange vraiment équilibré. On essaye de pas faire n'importe quoi sur l'alimentation parce qu'on le ressent tout de suite sur notre énergie dans la journée ou le lendemain.
Ouais, c'est clair.
Donc ça, c'est très important. Et puis garder une routine sportive, c'est-à-dire on va pas rester 3 jours sans faire du sport. Même si on voyage, on n'a pas de salle de sport. Bah, je vais prendre le temps de faire un HIIT dans la chambre ou ailleurs 20 minutes et j'ai fait ma séance.
Ouais, vous êtes des psychopathes un peu comme moi, quoi.
On dit ça comme ça.
Une fois que le corps il a pris l'habitude de bouger, quand il bouge pas, il
n'est
pas
bien. C'est exactement ça. Et du coup, la transition avec le coaching, il a fallu du coup attendre les événements Covid ou c'était déjà une idée dans votre tête ou déjà vous avez déjà mis en place des choses dans les clubs où vous étiez ou peut-être en ligne. C'était comment la vision?
En coaching, tout ce qui est en ligne, c'était pas du tout dans notre tête. On voulait un jour entreprendre quelque chose, donc soit monter un studio de cours collectifs, soit une petite salle, soit voilà. On commençait même à peaufiner un petit peu avant le Covid, à chercher l'endroit pour créer un studio, etc. Covid arrive, donc ça a commencé par donner des cours sur Facebook gratuitement, un groupe qui a pris l'ampleur après avec 20 000 personnes qui venaient pour suivre les cours, etc. Les gens nous demandaient, les salles rouvrent en juin et les gens nous disaient, mais vous allez continuer ou pas parce que j'adore vos cours, etc. Donc, on a créé la plateforme et puis on s'est rendu compte petit à petit des avantages, on va dire, d'entreprendre comme ça sur en ligne avec la liberté géographique, le stress de pas avoir de charge locale, plus les baffes, plus le problème des salariés, etc. Et on s'est dit, mais c'est ça qu'on veut, en fait. C'est parfait. C'est exactement ça qu'il nous fallait, en fait. Donc, on s'est lancé dedans et on s'est dit, c'est ça qu'on va faire. Et voilà, on a travaillé, on a réussi, on a échoué, on a recommencé et c'est ce qui nous a amené là aujourd'hui.
Et après, pour le coaching, plus particulièrement, ça a vraiment été une succession d'événements. Donc, l'ouverture de la plateforme avec les cours classiques de fitness, etc. On commençait à se rapprocher de notre communauté qui posait des questions sur l'alimentation aussi, comment vous mangez, comment vous faites, comment vous vous entraînez, etc. Et puis, on commençait à rentrer, puis à travailler aussi sur nous et cette nouvelle vie qui arrivait devant nous, comment on allait gérer ça. Donc, à entreprendre aussi un petit peu de développement personnel pour nous, essayer de structurer un peu nos idées, nos pensées. Et puis progressivement, entre la demande des gens et notre travail de notre côté et de ce qu'on se rendait compte, on a eu vraiment comme un déclic de se dire, mais en fait, il faut qu'on transmette ça, ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. Bon, après, c'était pas pour de la perte de poids, mais c'était un changement de vie, en fait, comment on aborde ça. Et du coup, on a mêlé les deux en se disant, comment amener notre expertise de coaching depuis 8 ans et tout ce qu'on a vu, plus notre expertise d'aujourd'hui, comment on entreprend une nouvelle vie, comment on instaure des nouvelles habitudes, etc., etc. Et donc, du coup, de là est né le programme Start to Change de coaching en ligne.
Yes, excellent. Et j'aurais à revenir sur un truc que je partage aussi avec les coachs, parce que pour développer un business, il faut une communauté. Et vous, on l'a vu quand vous avez commencé à pendant le Covid à créer un groupe. C'était un groupe Facebook, c'est ça ?
C'est un groupe Facebook. Ouais.
Quels sont vous les conseils que vous donneriez aux coachs pour développer une communauté et créer justement un groupe ? Enfin, après le médium, que ce soit un groupe Facebook ou un groupe de n'importe quel, on va dire outil, peu importe. Mais comment vous avez fait pour créer une communauté ?
Alors. C'est vrai que nous, c'était un peu particulier au début parce que c'était déjà pendant le confinement. Donc, tout le monde cherchait à faire des cours chez soi, on va dire. Mmh. Et on a créé le groupe, mais on a intégré d'autres profs dedans. Donc, on était une vingtaine, trentaine même à un moment donné. Donc, on n'était pas les seuls à donner des cours. Donc, chaque prof a ramené ses élèves, ses fans, on va dire. Et c'est ce qui a...
Ça, c'était une super bonne idée.
Voilà, c'est ce qui a pris l'ampleur du coup après. Donc, ça, c'est pour la communauté du groupe Facebook. Ensuite, pour le conseil que je peux donner aux coachs qui se lancent, si tu en pars de zéro, c'est de donner, en fait. C'est-à-dire, on fait pas un compte Instagram ou Facebook juste pour dire, moi, je suis à la plage, voilà mon repas d'aujourd'hui, voilà, je m'entraîne ici. C'est donner de la valeur.
C'est du vécu, ça.
Voilà, c'est de donner de la valeur aux gens, donner des vrais conseils, de savoir qu'est-ce que c'est les personnes qu'on cherche, la communauté qu'on cherche à avoir, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils veulent résoudre et de leur donner tout simplement les conseils adéquats en fait qu'ils cherchent.
Ouais, vous faisiez déjà vous faisiez carrément des cours en live, des choses comme ça?
Pendant le confinement,
il y avait des dizaines de cours par jour.
Ouais, c'était un truc de fou, un planning.
Et tout était offert.
Ouais, tout était gratuit.
Pendant presque 3 mois.
C'est ça, ouais. Mmh. Et c'est ça qui a fait après que les gens nous ont suivis parce qu'on leur a offert.
C'est énorme, ouais.
Pendant 4 mois, 3 mois, on a reçu énormément de messages de type vous m'avez sauvé mon confinement, merci, grâce à vous.
Un truc
j'ai fait des cours toute la journée chez moi, etc. Il y a des gens qui ont fait plus de sport avec le confinement que sans le confinement.
Il y avait des masterclass tous les jours, quoi, de freestyle.
De 9h du matin à 20h le soir, même des fois 22h, parce qu'on avait des Israéliens, on avait des Marocains qui donnaient cours. C'était
partout, hein. Italie, Maghreb.
Ok, excellent. Ouais. Excellent. Et du coup, après, il y a eu la réouverture. Comment était la transition entre la réouverture, la réouverture et la nouvelle fermeture? C'est là, en fait, c'est au deuxième où vous avez switché vers un modèle payant?
Tout de suite, non.
Non, ça a été tout de suite parce que pareil, on recevait, en fait, c'est la demande. On recevait énormément de messages qui nous disaient, mais vous pouvez pas arrêter quand ça va ouvrir, faut absolument que vous continuez.
C'était même pas arrêté encore et les gens se posaient la question quand ça rouvre, est-ce que ça vous allez continuer ou pas?
Comment on fait pour continuer à vous suivre? Et vu qu'on donnait, on donnait, on donnait, à un moment, les gens ont dit, mais comment on peut vous rendre, en fait? Et du coup, il posait la question, mais pourquoi vous créez pas quelque chose de payant? On peut au moins vous rémunérer un petit peu de tout ce que vous nous donnez, etc. Au début, on disait non, c'est, enfin voilà, on va reprendre notre vie. Enfin non, on fait ça pour être solidaire et tout.
Comme
et
quoi, puis, la puissance d'une communauté, quand on apporte de la valeur à une communauté, bah, la communauté, elle te redonne 100 fois.
Ouais, ça a été vraiment incroyable. C'est et ça. Du coup, on s'est dit, bon, bah, ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, y a énormément, énormément de demandes. Premier message, bon, on se dit rien. Deuxième, non. Dixième, non. Vingtième, on commence à se dire, bon, il y a peut-être un truc. Et puis plus ça allait, et puis on se disait, il faut qu'on se lance. Et du coup, bah, ça a été en un mois et demi, je pense.
Ouais, on a lancé fin juin le site. Donc, on a commencé à travailler dedans.
Donc, avant. Vous, tous les deux, vous êtes entre guillemets sortis du modèle gratuit pour développer une plateforme payante, c'est ça ?
Et ouais. Une fois que ça avait rouvert, donc on est resté gratuit tout le long du confinement. Ouais. Et une fois que ça a rouvert, on s'est dit, bah, allez, les personnes qui veulent continuer à nous suivre, voilà, on va créer une plateforme. Et bah, forcément, de là est venue l'idée, on va pas seulement donner des cours, on va transmettre aussi notre hygiène de vie, bah, comment on mange, nos recettes, nos conseils, etc. Et du coup, on a créé la plateforme
avec deux lives par semaine, donc qu'on tient toujours, avec une nouvelle recette ou un nouveau training court du HIIT une fois par semaine, avec un onglet conseil, un onglet training, training en salle aussi, donc il y a des programmes de musculation, et les lives sont sur le freestyle, la danse, du training, pilates, méthode douce, stretching.
Il y a un roulement, je suppose, chaque semaine ou chaque mois, c'est ça ?
Planning
exactement.
Et du coup, bah, quand on a lancé le site, on était comme ça. On s'est dit, bah, ça se trouve, la communauté, on ne sait pas. Hein, c'est... Et la réponse du présente, mais un truc de dingue. Un truc de dingue. Franchement, on était trop touchés. Et du coup, ça nous a donné vraiment la niaque pour se battre et se dire, bah, on ne dormait pas, on faisait des nuits blanches, mais ça valait le coup. Quoi.
Ok, excellent. Et donc, vous êtes passé d'un business de cours, on va dire, à l'unité, à un abonnement mensuel, je suppose.
Oui, c'est ça.
Mensuel et annuel.
Ok. Et il y avait différentes gammes dans votre programme, où vous avez commencé simplement au début, très simplement, avec une seule offre, et puis vous faisiez rentrer les gens dans le dans
votre site. On a commencé avec une seule offre,
ouais, c'est ça.
Ok.
Donc, quand tu rentres, t'as accès à tout.
Qu'est-ce qui a été pour vous, le plus difficile de passer un modèle, on va dire, physique à ce modèle, on va dire, 100% online? C'était quoi les difficultés, enfin, peut-être pas les difficultés, mais les problématiques que vous avez rencontrées?
Moi, je sais, le plus difficile, je pense que ça a été de se faire à la technique, en fait. De transvaser son cerveau. À dire, OK, donner un cours, je sais faire, tout ça, je sais faire, mais comment on passe à mettre tout ça en ligne, en fait, copier des lignes de code pour transférer les lives, comment on va mettre le live fermé, puis après ouvert, puis créer des espaces membres, etc. Tout ça, c'était très, très flou au début. Et je pense que, en tout cas, pour moi, ça a été plus difficile, le côté un peu technique.
On va dire. Et au niveau de la technique, pour donner les cours de freestyle et tout, vous étiez chez vous ?
Non, on a un studio du coup de tournage.
Au début, on était dehors parce qu'on voulait. Chez nous, c'était pas possible, il n'y a pas de place.
Il n'y a pas de place.
On était en extérieur et après, on a.
C'était le mois de juin, donc ça allait.
Ouais, ça allait. Et après, on a cherché un studio et. Enfin, un studio, c'est un box de stockage qu'on a réaménagé en studio de tournage du coup.
Ok. Donc aujourd'hui, vous avez un studio qui est réservé exclusivement pour vos sessions. Excellent, ouais. Excellent. Et après, d'un point de vue technique, vous utilisez quoi, vous, comme système? Je sais plus, vous utilisez pour l'espace membre et tout?
WordPress,
ouais, vous avez fait un site WordPress et puis, ok. Et
Vimeo, du coup, pour faire les lives et on transfère le live Vimeo dans la plateforme WordPress.
Excellent. Excellent. Donc là, il doit y avoir pas mal de contenu depuis.
Grave.
Excellent. Et du coup, comment vous avez fait? Du coup, si vous avez rajouté un petit peu plus de valeur avec du coaching, avec l'alimentaire et tout, du coup, vous avez augmenté le prix de votre accompagnement ou comment vous avez fait du coup? Alors, ça vous est venu comment tout ça, cette réflexion-là?
Bah, la réflexion, c'est par rapport à la demande, ça veut dire. On donne des conseils aux gens, comment manger, etc. Mais ils n'ont pas pour autant des résultats en fait qui sont concrets. Donc à partir de là, on a compris, on sait de toute façon qu'il faut accompagner les gens, d'avoir un coaching personnalisé, qu'on peut avoir des échanges par SMS, d'avoir un programme structuré, parce que voilà, tu viens, il y a des vidéos qui sont comme ça, tu choisis tout seul, c'est comme un cours collectif. Tu arrives dans la salle, il y a un planning, tu fais le pump, tu fais la zumba, voilà, personne te pousse. Mais quand il y a un programme, le coach te dit voilà ce que tu as à faire, voilà comment tu manges, etc. Donc c'est là qu'on a créé un programme qui est complètement à part du coup de la plateforme. C'est même pas sur la plateforme d'ailleurs, c'est sur
un autre espace,
sur notre espace, etc. Et d'où on a créé la plateforme premium ou enfin l'offre premium, on va dire, où on accompagne les gens sur leur entraînement, sur leur alimentation, on regarde même leur assiette, etc. On donne tous les conseils et sur le mindset, donc sur l'état d'esprit, sur les obstacles, sur la difficulté, sur leur pourquoi, sur leurs croyances limitantes, etc. On va vraiment un peu plus en profondeur, on va dire.
Excellent. C'est super inspirant et j'espère que tout le monde prend des notes là, ceux qui écoutent le podcast, parce que on dit souvent que c'est nos clients qui nous donnent en fait les solutions. Bah, tout simplement, vous avez simplement écouté, vous avez simplement tendu l'oreille et écouté ce que demandaient vos clients et vous leur avez donné quoi.
Exactement.
Ouais, c'est ça. OK. Et quelle est votre vision du coup dans les 6 à 1 an, 2 ans, c'est quoi vos objectifs pour le futur?
De tout péter.
C'est de transformer un maximum de femmes. Bon, on a une communauté un peu plus féminine, mais de transformer un maximum de personnes parce qu'on voit à quel point ça change leur vie, ça change leur façon de voir les choses, ça change leur niveau de bonheur augmente fois 1000. Donc ça, c'est un moteur qui nous nourrit et on se dit mais il faut absolument qu'on montre ça à tout le monde. Regardez comme c'est trop bien quand on prend soin de soi, qu'on est bien dans son corps, il y a tout qui se débloque après. Et donc l'objectif, c'est vraiment
de transmettre ça. C'est, voilà, c'est de développer, d'aller plus loin. On s'est pas trop concentré sur la première plateforme, du coup Human Fit, parce que on a créé la plateforme, l'offre premium. Voilà, tu mets tout l'espace membre, tu mets la stratégie marketing, tu mets ça, tu mets ci. Donc on n'a pas trop travaillé sur Human Fit. Donc le but maintenant, c'est de développer ces Human Fit aussi, parce que
Vous avez deux offres, une offre on va dire standard et une offre premium, c'est ça?
Exactement.
Donc développer la première offre aussi, parce qu'on allait délaisser pendant quelques mois.
Et même pour les coachs d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de valeur dans que ce soit dans la pédagogie de freestyle, de step aérobie, que ce soit dans la pédagogie de renforcement, de pilates, etc. On a mis énormément de valeur. D'ailleurs, il y a beaucoup de profs qui nous suivent aussi et qui retransmettent leurs cours et qui apprennent par rapport à ça. Donc, développer un petit peu ce côté-là aussi.
Et aller plus loin aussi sur l'offre premium, donc coacher encore plus de personnes, développer vraiment, augmenter aussi notre visibilité, donner plus de valeur, que ce soit gratuit ou payant ou aux personnes qui sont dans le besoin et aller plus loin tout simplement.
Donc imaginons que là vous passez votre BPJEPS aujourd'hui même, vous sortez de BPJEPS tous les deux et vous voudriez vous lancer en coaching en ligne. Qu'est-ce que vous feriez avec l'expérience que vous avez aujourd'hui? Comment vous feriez pour recommencer de zéro? Comment?
J'ai la réponse directe. Si je viens de sortir là de formation et je veux lancer coaching en ligne, je me fais former direct. Je prends une formation de quelqu'un qui, un, il a fait ce que je cherche à faire, et deux, il a coaché des personnes qui ont des résultats que je souhaite avoir. Donc, je me fais former direct. Je ne perds pas de temps, en fait, parce que tout seul, tu vas peut-être y arriver. Mais dans peut-être 4 ans, 5 ans, tu vas te casser la gueule, tu vas perdre de l'argent, tu vas avoir des doutes. Mais quand tu es formé, tu es encadré et on te donne ce qu'il faut faire, comment accompagner les gens, quelle stratégie mettre en place, quelle valeur, comment donner, etc. C'est un plan structuré comme les personnes qu'on coach. Tu peux perdre de poids seul en prenant des infos sur Google, regarder 3 vidéos sur YouTube, écouter la voisine qui te dit mettre ses 30 dans l'eau le matin et faire n'importe quoi pendant des années pour à la fin comprendre qu'il ne faut pas faire un régime, il faut rééquilibrer. Mais ça peut prendre des années, pour certains, même toute leur vie. Et c'est la même chose pour le coaching en ligne. Si tu te lances tout seul, tu peux faire des erreurs, ça peut durer 4 ans, comme 10 ans, comme 15 ans. Donc, si je veux prendre un raccourci, je prends un formateur, un accompagnement et je me fais accompagner.
Et pour vous, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qui vous faisait peur ou vous connaissiez des...
Non, peur, pas du tout. On a toujours eu l'envie de travailler pour nous, c'est-à-dire même quand on travaillait en tant que coach, on était en auto-entrepreneur, on s'est mis tout de suite en auto-entrepreneur, on voulait avoir cette liberté de on voulait partir en convention, qu'on puisse, si on voulait prendre quelques jours, qu'on soit pas bloqué en fait.
Ça vous est venu comment ça ? C'est votre éducation ? Vous avez été habitué ? On vous a biberonné à ça ou... Comment ?
Pourtant, enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein, en tout cas, non, c'était plus la filière plus classique, mais tu te rends compte, t'as pas de CDI, si du jour au lendemain il t'arrive quelque chose, t'as rien, t'as pas de sécurité. Oui, mais j'ai ma liberté. Donc, pour moi, ça a toujours été, toujours été en moi, toujours été cette sensation.
Pareil, ouais, j'ai toujours pris des risques dans ma vie, on va dire, qui sont grands ou petits, hein, plus ou moins, mais qui ça se paye en fait. J'ai quitté mon pays, je savais pas trop ce que j'allais retrouver, faire ici, mais voilà, c'était peut-être un risque, mais je vais quand même. On me dit.
Comment vous avez travaillé ce mindset ? Parce que moi, ce qui me fascine du coup, depuis que je rencontre des entrepreneurs dans le fitness ou dans n'importe quel type d'industrie. Pour moi, c'est le mindset qui fait la décision, hein, parce que avoir des connaissances, tu vois, on n'y connaît rien, un ClickFunnels, on apprend, on n'est pas con, voilà. Enfin, la technique, dans tout, on connaît rien, la nutrition en sport, on peut se former. Par contre, le mindset, je trouve que c'est la chose la plus indispensable et la plus compliquée, du coup, ça va vraiment à l'intérieur de soi. Et du coup, quand vous me dites, ouais, c'était naturel, je suppose qu'il y a eu des déclics à un moment donné. Est-ce que c'est peut-être des livres? Est-ce que c'est peut-être une rencontre? Non, j'arrivais pas à...
Alors, non. Des livres, c'est maintenant. Donc là, moi, je me mets à lire des livres. Là, je me mets vraiment à travailler mon mindset, mais tous les jours. Hein, je passe pas une journée sans travailler sur mon mindset, que ce soit en podcast, vidéo, livre. Mais à cette époque-là,
je dois...
Parce que pour quitter ton pays, tu vois, c'est fou de quitter son pays, de se dire bon allez hop, je vais dans un autre pays que je connais pas et puis je vais construire quelque chose. C'est super inspirant, quoi.
J'aime toujours aussi voir ce qui nous fait peur, c'est l'inconnu en fait. On sait ce qu'on va quitter, mais on sait pas ce qu'on va avoir, et c'est ce qui nous bloque des fois, la peur en fait de se lancer, la peur d'échouer. Peut-être il va m'arriver ça, peut-être je vais me retrouver tout seul, peut-être je vais me retrouver sans argent, et tout ça nous bloque. Au début, quand tu travailles pas sur ton mindset, c'est-à-dire quand t'as pas vraiment la conscience de tout ça, je pense que c'est la confiance en soi qui arrive en jeu et qui, quand tu l'as mis en premier plan, c'est-à-dire j'avais confiance à mes capacités, c'est-à-dire même si je me casse la gueule et que je pars de zéro, j'ai des bras, j'ai des jambes, oui, j'ai un cerveau, je travaille, j'apprends et je recommence. Voilà, c'est ça qui me poussait, on va dire, avant. Et maintenant, voilà, j'ai acquéré un mindset plus...
Ouais, ça se travaille.
Oui. Mais avant, j'avais assez confiance en moi, on va dire.
Moi, je pense qu'il y a eu pas des éléments qui déclenchent. Par exemple, la perte d'un ami qui était très jeune. Ça peut être aussi des choses comme ça qui déclenchent. Mes parents qui ont toujours été un petit peu débrouillards, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils allaient quand même à l'aventure, voyager, etc. Donc, je pense que ça casse aussi des barrières, des peurs, etc. Et au fur et à mesure, on se construit avec ces expériences de dire « Ah ouais, j'avais un ami qui est décédé du cancer à 17 ans et moi, j'ai la chance de vivre et d'être là, mais je vais rien louper, rien regretter. » Puis ça avance progressivement, petit à petit, et ça se construit. Pareil, je suis partie en Australie pendant un an sans rien, avec même pas 1000 euros dans la poche. Et du coup, je suis rentrée avec une expérience de dingue, plus de 15 000 euros sur mon compte bancaire. Enfin, et donc, du coup, tout ça enrichit le fait de me dire comme mot, j'ai des bras, j'ai des jambes, j'ai une réflexion, je peux m'en sortir en fait. Peu importe, je repars de zéro, je recommence. Je l'ai déjà fait une fois, deux fois, trois fois, pourquoi pas quatre. Et puis voilà.
Excellent, excellent. Et bosser en couple alors ?
Bosser en couple, bosser franchement, en couple. C'est de la merde, je vous déconseille.
Non. Non, franchement, là-dessus, je ne sais pas si c'est de la chance, on peut dire que c'est de la chance, mais ouais. On est vraiment ultra, méga compatibles. Et du coup, je peux comprendre que certaines personnes qui travaillent en couple, ce soit difficile parce qu'il faut avoir une vision, et la communication, c'est la clé numéro ou non, communiquer.
Ouais, que ce soit dans le business ou dans la vie privée.
Ouais. Nous communiquer. Des fois, on travaille moins juste pour communiquer. Donc.
Des fois, on communique trop. Tu vois, on ne travaille pas beaucoup, mais alors on communique.
Mais bon, on a trop communiqué, on va travailler maintenant, non?
Comment vous répartissez du coup? Est-ce qu'il y a une répartition vraiment très stricte des tâches ou c'est un peu au feeling en fonction de... fonction des jours ou en fonction du moment?
C'est pas au feeling, mais c'est pas très strict non plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à douer dans certaines tâches que elle va peut-être douer dans d'autres. Et du coup,
ça
on va
réapparaître.
Ça se fait
ouais.
naturellement, en fait. Par exemple, tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est montage vidéo, photo, etc., c'est moi qui va s'en occuper. Donc, j'ai plus de facilité. Je fais ça depuis longtemps. Pour d'autres tâches, ça va être elle qui
tout
va
ce qui est justement de mettre les choses en ligne sur le site, de créer l'organisation, les plannings, etc. Ça va être plus moi qui va m'en occuper. Et on n'a pas défini, mais ça s'est fait naturellement selon les compétences de chacun.
Ok. Et c'est quoi une journée type de Mo et Mej, du coup, dans la, c'est quoi le, vous levez à quelle heure et vous organisez comment?
Une journée type, donc c'est en général c'est entre 7h et 8h, donc on va dire 7h30 le réveil.
Alors, tu lui emmènes le petit déjeuner au lit?
C'est plutôt l'inverse, mais bon.
En général, c'est moi qui fais le petit-déj.
Ah, c'est top.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis ancien, on va dire très grand dormeur, et le réveil pour moi c'est un carnage.
On a beaucoup travaillé là-dessus.
Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus.
Ah bah ça va, 7h 8h du coup.
Ouais, c'est pas mal, mais du coup moi je me lève, je mets mon pantalon, t-shirt et je marche direct. Je sors de la maison, je marche sans rien faire. Allez, peut-être je vais aux toilettes avant, mais rien d'autre. Je marche direct. Donc, ça, c'est pour me permettre de me réveiller. Avant, le réveil sonne 5-6 fois, je le remets, etc. Voilà, je me couchais tard aussi, c'est pour ça. Donc, maintenant, je me couche tôt. Je lis avant de dormir. Avant, c'était téléphone, Instagram, les réseaux avant de dormir, c'est ce qu'il faut éviter. Quand on veut entreprendre et vraiment construire des choses qui sont grandioses. Donc, voilà, je lis avant de dormir. Je me couche plus tôt, donc 23h, 23h30. On se lève à 7h30. Moi, je marche. Du coup, c'est elle qui prépare le petit déj. Donc, je finis ma marche et mon petit déj prêt. Donc, ça, c'est plutôt cool. on prend le petit déj. Alors avant, c'était du coup moi je mettais mon côté mindset le matin, lecture le soir et le matin c'est soit podcast soit vidéo. Donc je me mets ma petite 30 minutes de mindset. Des fois elle se met avec moi, des fois non. Et ensuite on va à l'entraînement. Bon, ces derniers temps j'ai enlevé ce côté mindset parce qu'on travaille sur un projet immobilier. Pour un investissement immobilier, du coup, on se forme sur l'immobilier. Donc, le matin, c'est petit-déj, immobilier. On structure un petit peu ce qu'on a appris, on met des choses en place, on va s'entraîner. Ça dépend après les jours, mais on va dire qu'on rentre, on mange.
Vos lives sont à quelle heure, sinon? C'est quand?
C'est mardi à 11h.
Et jeudi à 19h.
Et jeudi à 19h.
Et on a une conférence en ligne le lundi à 20h.
À 20h avec les personnes qu'on coach.
Et on anime aussi un groupe Facebook, du coup, où on fait, ça dépend, des fois un live, des fois des publications ou autre, mais ça nous
s'adresse, en général, ça s'adresse à des prospects, là, du coup.
Ouais, voilà. C'est ça. En général, c'est le mercredi. Et après, on a la programmation des publications Instagram, par exemple. On va se poser, on va programmer pour la semaine. Ça va être... toute la stratégie marketing qui n'est pas encore toute finalisée, donc pareil on se prend des sessions de 2-3 heures où on va bosser dessus et avancer ça, et après on prend aussi une heure de temps pour gérer nos coachés, les coachés qu'on accompagne du coup, répondre à leurs messages, les gérer, etc. Et puis ça change tout le temps en fait. Ça va être le type, mais il y a plein d'autres choses.
Les tâches vont changer, mais on va dire on se lève le matin, on travaille jusqu'à 11h, on s'entraîne, on mange, on reprend, on va dire, à 14h30 à peu près. On bosse avec quelques pauses jusqu'à 21h, puis voilà, on mange et voilà. Ouais, et ça, c'est une journée type, on va dire, qui peut bien sûr se varier un jour à l'autre.
Ok. Et quel est votre échec préféré?
Notre échec préféré...
Alors là, c'est dur. échec préféré.
Qui vous a permis de grandir, du coup.
En fait,
j'en ai tellement.
Je n'appellerai pas plus ça un échec, mais c'est plutôt une expérience qui nous a permis d'avoir une bonne réflexion et mieux choisir du coup ses actions dans le futur, qui investir l'argent dans quelque chose qui n'était pas adapté sur notre moment actuel, sur
mauvais timing,
etc. Donc c'est vrai que du coup on a perdu de l'argent sur cet investissement. On voulait en fait aller plus vite. Clairement, on a pris du coup une agence, on va dire, qui va s'occuper de tout ce que le setup marketing avec les mailings, avec la création de funnel, avec ManyChat, etc. Tout était compris, c'était super génial avec les communautés.
Mais ils n'étaient pas dans votre tête, quoi.
C'est le premier mois bien passé, le deuxième ça va, et après ça se dégradait, le travail est mal fait, après il n'y a plus de réponse, etc. Et du coup, maintenant, on a dû refaire tout ce qu'on voulait mettre en place. Donc, on a perdu du temps. Donc, on a perdu 3 mois et quelques milliers d'euros qu'on partait avec. Donc, ça, c'est, je pense, une bonne petite claque qui veut dire la prochaine fois, on va bien choisir, on va voir, on va mettre peut-être un contrat avec des choses qui seront faites ou pas. On ne mettra pas notre argent n'importe où et on ne va pas facilement croire à des promesses qui sont incroyables comme ça, en fait.
Ok, excellent. Est-ce que tu m'as parlé de livres et de podcasts? Est-ce que vous avez des livres que vous recommandez régulièrement, des podcasts que vous écoutez qui permettent à la fois que ce soit du mindset, confiance en soi, développement, business ou autre, que vous écoutez ou lisez?
Alors c'est vrai que ça dépend d'où on part, c'est-à-dire moi si tu me parles il y a 2 ans, je vais recommander des livres, je sais pas, comme de Robert Kawasaki ou autres qui vont te parler de le mindset avec l'argent.
Il y a vraiment des degrés. Mais, en fait
aujourd'hui je suis en train de lire le livre Influence et manipulation de Robert
Cialdini, ouais,
c'est ça. Donc, que j'aime beaucoup, que j'adore, parce que j'adore la psychologie sociale et humaine comme ça. Après, les podcasts, j'ai des personnes que j'aime bien. Donc, quand ils sortent leur podcast, des trucs comme ça, j'écoute leur dernier podcast ou leur dernière vidéo sur l'éducation financière, on va dire. Ouais, okay. Et sur le mindset d'entrepreneur, on va dire.
Ok.
De la vie, etc.
Et tu en as un à nous proposer en podcast?
Alors, j'en ai plein. J'écoute tout le monde. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, moi, j'écoute tout le monde. Sur le développement personnel, les plus connus, comme Franck Nicolas, David Laroche, Steve, etc. T'as sur l'éducation financière en France, Théophilie, j'aime bien les vidéos de temps en temps qu'il fait. Donc, je ne regarde pas tous, mais je ne sais pas si tu connais.
Ouais, je connais. Alors, j'ai pas écouté du coup ces dernières vidéos, parce que moi, je le connaissais plus d'avant quand il faisait de l'infoprenariat. Si vous aimez les finances personnelles, je vous conseille La Martingale. Je sais pas si ça vous parle, où il parle. Et il parle de finances un petit peu. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Et du coup, ça fait une super transition avec le monde de l'entrepreneuriat, parce que l'idée, effectivement, avec notre business, c'est de pouvoir, créer des expériences, changer la vie des gens, mais également aussi intrinsèquement aussi avoir suffisamment de revenus aussi pour se développer aussi personnellement. Et là vous me parliez d'immobilier et je pense que ça aussi c'est intéressant, on n'en parle pas du tout dans notre secteur d'activité. Moi on n'a jamais parlé au niveau du coaching ou même dans le fitness de manière générale, où le fait de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et du coup l'immobilier ça peut être un levier intéressant. Quel autre, enfin, vous intéressez à quoi aujourd'hui à part l'immobilier?
Immobilier, bourse, crypto-monnaie.
Ok, excellent.
Business en ligne, crypto, business en ligne au premier, après le en deux, immobilier, la bourse et à la fin crypto, pourquoi pas.
Ok, super, super, super. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux professionnels du fitness qui nous écoutent?
Oh, un seul, c'est dur.
On a plein de messages.
Alors, deux messages.
Le plus important, c'est de miser sur soi, en fait. de se former, comme disait Mo, d'apprendre sur soi, de savoir qui on est, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut devenir, et de pas se laisser guider en fait son avenir par quelque chose d'autre qui nous parle pas forcément. Donc vraiment savoir qui on est, connaître ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut transmettre, et à partir de là, bah, découper au fur et à mesure l'objectif en plein d'étapes et se dire ok, bah moi je veux devenir ça, je veux transmettre ça, donc par quoi je peux commencer? Bah le sport, ça me parle, donc par le sport je peux transmettre telle valeur, et petit à petit monter les échelons, pas vouloir aller trop vite bien sûr, et ouais, se faire confiance.
Merci Maj. Et
ouais,
moi, du coup,
c'est un très bon message, ouais, de se faire confiance, d'y aller. Moi, je vais faire un message court, c'est de passer à l'action massivement, de pas attendre le bon moment, de pas attendre la bonne situation, d'avoir le financement, d'avoir le beau temps, etc., pour commencer quelque chose. Voilà, c'est ta situation, c'est ta vie, ne te plaît pas aujourd'hui. Passe à l'action, fais quelque chose pour que ça change, parce que c'est pas en faisant les mêmes habitudes qu'on va avoir des résultats différents. Donc voilà, passer à l'action, se former, avancer, bien s'entourer aussi. N'hésitez pas faut pas hésiter à demander de l'aide en fait, des gens qui ont plus d'expérience. Donc de bien s'entourer et d'aller chercher de notre vie de rêve en fait. C'est possible.
Excellent. Bah, c'est un super message de fin. En tout cas, merci à tous les deux. C'était vraiment cool. Merci également à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles et un petit commentaire. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les médias sociaux? Où est-ce que vous êtes le plus présent?
Donc maintenant, on développe bien Human Fit. Donc Human Fit sur Instagram, Human Fit sur Facebook. Et puis notre site, il s'appelle humanfit.com. Donc human-de-milieu.fit.com.
Ok. Bon, bah, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Merci tous les deux. C'était cool. Au plaisir en tout cas de vous revoir. Et puis on se dit à très très vite. Ciao.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Ciao.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.